Les tiers-lieuses.
Et bien maintenant que ces rencontres sont bien lancées, on pourrait se dire qu'on a jusqu'à samedi 16h31 pour tenter ensemble de continuer à poser des questions et peut-être même de répondre à une partie des questions que vous avez mis en commun ou que vous avez commencé à formuler. Donc je compte sur vous pour les garder, prendre des notes sur vos petits calepins, dans vos cerveaux puissants. Une partie seront probablement travaillées par des ateliers. On va voir ça dans pas longtemps avec la présentation des ateliers de demain. Et puis dans d'autres moments de plénière, et ce jusqu'à la fin des rencontres. Ce qu'on s'est dit dans ce petit moment-là, c'est qu'on avait quand même un besoin qui pouvait être commun, et en tout cas moi qui m'apparaît important à affirmer ou réaffirmer. On a besoin entre nous de ne pas entretenir la confusion ambiante. Alors on va essayer de faire ça avec Mayol à deux voix, d'amener des éléments pour tenter de ne pas être dans trop de confusion, avec la contradiction qui est amener de la clarté. Des fois, ça amène à être simpliste. On va essayer de ne pas être trop simpliste, un peu quand même, parce que bon, faut bien accepter nos contradictions, accepter que même quand on tente de mettre de la clarté, des fois, on n'y arrive pas complètement. Mais en tout cas, on a ce besoin-là. Et sur le vocabulaire qui est celui du but non lucratif et de la propriété collective, il y a un paquet de confusions qu'il faut qu'on tente ensemble de diminuer. Puis un deuxième point de préalable avant de rentrer un peu plus dans le sujet qui me semble important à rappeler, c'est que il s'agit, quand on est sur nos projets de lieux collectifs qu'on appelle tiers-lieux, qu'on les appelle autrement, il me semble que c'est important de se rappeler qu'on inscrit nos actions dans une durée longue, une durée qui nous dépasse en fait en tant que personne. Et pour ce faire, travailler la question de la propriété des moyens matériels, les moyens avec lesquels on fait les choses, et ben c'est une des manières de travailler la question de la pérennité au-delà des individus, de leur énergie, de l'intensité de ce qu'ils peuvent mettre. Donc c'est quelque chose qui dépasse nos vies personnelles malgré tout. Malgré le cataclysme écologique qui est en marche, malgré l'extrême droitisation du monde et la réaction à cette extrême droitisation. Enfin, malgré tout ça, on inscrit les choses dans un temps long. Voilà. Et puis, peut-être encore un dernier point, encore un peu introductif, là, qui serait de dire que on inscrit dans du temps long, mais ça ne veut pas dire qu'on inscrit ça dans des choses trop sérieuses, et surtout pas dans des choses tristes. Vous savez que le capitalisme a besoin qu'on soit triste. Hein ? Donc nous devons, et c'est notre responsabilité, c'est d'être joyeux, de ne pas se laisser embarrasser par les affects tristes. Bon, voilà, c'était pour se mettre en route, hein, tranquillement. Voilà. C'est drôle ? Ah, merci. Il y a au moins un qui suit, quoi. Ouais, non, je fais un petit geste. Il n'y a pas de jingle pour ça. Mais, voilà. De quoi parle-t-on quand on parle de but non lucratif ? Eh ben, en fait, c'est vraiment ultra simple. C'est ultra simple. Ça tient en deux points principaux. Quand on parle de but non lucratif, ça veut dire qu'on agit sans se partager de potentiels dividendes. Et on agit avec une gestion désintéressée. C'est que ça. En fait, c'est intéressant de se rappeler d'où elle vient, la loi 1901, quand même, en France, parce qu'elle vient de ce qu'on pourrait appeler l'échec de la Révolution française. L'échec de la Révolution française, c'est la bourgeoisie qui fout les aristos dehors et qui prend leur place pour faire à peu près la même chose. Et on met à peu près 120 ans, pas tout à fait, mais on met un gros siècle à s'en remettre. On met un gros siècle à tenter de pousser cette révolution vers plus de liberté. Et la loi 1901, c'est une loi... je vais essayer de dire un truc marrant. Je ne sais pas si ça va marcher. C'est une loi ultra-libérale. C'est une loi extrêmement libérale puisqu'elle dit que les citoyens ont le droit de faire ce qu'ils veulent sans demander l'autorisation à l'État, à condition que ce soit à but non lucratif. Ça ne dit pas la nature des activités, ça ne dit même pas la démocratie. Voilà, j'en profite pour vous conseiller un bouquin qui s'appelle Le procès de la liberté, Michèle Rio-Sarcey, c'est une historienne, elle raconte tout ça vachement mieux que moi. Moi, je le raconte en 1 minute et demie, de manière un peu radicale. Et donc une fois qu'on dit ces petits points introductifs et qu'on se dit que la loi 1901 et donc le but non lucratif, c'est quelque chose de très simple, et ben ça permet de se rappeler que d'une part, c'est une approche libérale, donc les gens sont libres de faire comme ils veulent, et c'est une approche qui est anticapitaliste. Par structure, c'est une approche qui est politique. Puisque ne pas répartir l'argent qui est produit ensemble autrement qu'en rémunérant le travail, bon, en fait, c'est ultra-révolutionnaire dans le monde dans lequel on vit. On est tous pris dans l'idée que l'argent, en tant que tel, doit donner de l'argent. Enfin, moi, je suis le premier, hein, dès qu'on a un peu de sous sur le compte du réseau des greffages, je les mets sur le livret A. Hein. L'argent donne de l'argent. Bon, livret A, c'est pas hyper fort en rapport d'argent. Mais il n'empêche que le principe, il n'est même pas questionné, quoi. C'est une évidence. Ça amène quand même à poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une subvention en lien avec cette question du but non lucratif. Parce qu'une subvention, c'est quelque chose d'assez noble, en fait. Toucher des subventions, c'est pas honteux. C'est pas sale. Une subvention, ça veut dire que la collectivité publique, elle fait confiance à un acteur, par exemple associatif, pour participer de l'intérêt général. Bah, c'est plutôt beau, non? Comme manière de voir le monde. Et elle fait confiance sur des finalités. C'est-à-dire que elle fait confiance sur des finalités et des principes, ça inclut que le fonctionnement, c'est-à-dire financer du fonctionnement, c'est pas une tare, c'est une nécessité. Si on finance du fonctionnement à des associations, on leur permet de faire ce qu'elles ont à faire et non pas de passer de l'énergie à faire de la gestion, à se focaliser sur les moyens. Mais le principe de la subvention, je défends là. Pas la manière dont les humains font ce qu'ils peuvent et détournent parfois les choses. Donc une subvention, c'est ni sale ni honteux. Mais en tant qu'association, on est parfois confus par rapport à ça. On a presque parfois l'idée que bon, notre fonctionnement il dépend de subventions. Hein. On dépend de subventions. On ne dépend pas de subventions. On a besoin de subventions pour exister, pour être et pour réaliser l'objet social pour lequel on est là. Et puis, deuxième point en rapport avec la question des subventions, la question de notre confusion entre les subventions et les fonds publics. Vous n'êtes pas sans savoir que la part des fonds publics qui est attribuée sous forme de subvention, elle diminue à une vitesse incroyable. Comme diminue aussi le nombre d'associations employeuses, d'ailleurs. C'est peut-être lié, on ne sait pas. On sait pas. Et que cette diminution radicale des fonds publics alloués sous forme de subvention, c'est-à-dire que ce qui n'est pas sous forme de subvention, c'est sous forme d'appel d'offres, c'est sous forme de contrats, c'est sous forme de conventions, c'est sous des formes qui correspondent au secteur marchand. Et tout ce qui n'est, tout ce, cette diminution-là, ce n'est pas une catastrophe naturelle. C'est quelque chose qui est décidé, c'est quelque chose qui dépend d'une volonté politique. Ce n'est pas comme ça, quoi. Voilà. On ne peut pas juste dire, oh, c'est pas de chance. Hein. Parce que ça permet, cette diminution, elle permet aussi de dire, d'entendre, de dire et de répéter ce discours comme quoi il n'y a plus d'argent. Alors, je continue sur les choses. C'est pas vrai. C'est faux. Il n'y a jamais eu autant d'argent. Le PIB, il augmente depuis 1950, il n'arrête pas. Il n'y a jamais eu autant de pognon. La question, c'est où va cet argent, comment il est réparti, comment politiquement on décide que l'argent est orienté vers telle ou telle action, tel ou tel registre d'action. Mais je dis ça parce qu'il me semble que nous-mêmes, en tant qu'association, parfois, on participe de ce discours de dire, ah ben ouais, ben, il n'y a plus d'argent, alors on va faire avec moins, quoi. Hein, on va faire mieux avec moins. Mais non, non, c'est des conneries. Il ne faut pas qu'on continue à dire ça, il ne faut pas qu'on agisse en pensant ça. Il y a de plus en plus de pognon, il est de moins en moins pour nous. Ne sais pas si c'est une phrase. Je le dis comme ça, en tout cas. Et Donc les fonds publics qui sont donnés sous forme de financement, sous forme de contrat, ils sont donnés pas seulement du coup à des associations. Ils sont donnés à tout le monde qui remplit les termes du contrat. Je ne sais pas si vous avez entendu, moi j'ai jamais entendu l'entreprise Cola, par exemple, qui fabrique des ronds-points, dire qu'elle touchait des subventions. Je n'ai jamais entendu dire. Elle a gagné des marchés, c'est comme ça qu'elle dit. Elle a le marché du rond-point de Toussy. Bon, je ne sais pas si ça existe. Enfin, il y a des ronds-points partout, donc je ne veux pas complètement à côté de la plaque. Il y a forcément un rond-point. Il n'y a pas de rond-point à Toussy. Elle n'a pas gagné le marché du rond-point de Toussy. Ben zut alors. Bon, ben, elle a gagné le contournement d'Auxerre. Mais nous, les associations, même quand on a des contrats et des conventions, on dit qu'on a des subventions, puis on a un petit peu honte. Ben non, hein. Faut qu'on arrête ces bêtises. Faut qu'on appelle subvention ce qui est des subventions. Faut qu'on appelle convention ce qui est des conventions. Qu'on l'assume. Pourquoi pas, il n'y a pas de honte non plus à passer contrat avec la collectivité. Mais qu'on se rappelle bien que ce n'est pas la même chose. Alors, un autre mot sur lequel il y a de la confusion, il faut qu'on fasse attention, c'est le mot hybridé. Alors ça, c'est le mot du moment. Tout doit être hybridé. Par exemple, l'hybridation, ça veut dire que il devrait être possible, par exemple, que l'action sociale soit financée par la vente de biens et produits marchands. Ça vous fait pas des boutons sur la peau d'entendre des bêtises pareilles ? Ben non, l'action sociale, elle est pas en soi rentable, elle n'est pas en soi intéressante à mettre sur le marché. Elle demande par sa nature même de l'argent qui vient de la redistribution et qui vient de l'argent public. Et pourtant, on accepte que l'action sociale soit financée sous, pas, on accepte l'idée même que l'action sociale, toute action de type social, puisse être financée par des financements hybrides, un peu d'activité marchande, un peu d'activité non marchande. C'est tout à fait discutable, cette affaire-là. Ce n'est pas une loi naturelle, en tout cas. Okay. Et l'hybridation, elle permet d'introduire une notion qui est assez pernicieuse, qui permet de dire que, bon, non lucratif, bon, c'est un peu extrémiste. C'est un peu extrémiste. Dans le monde d'aujourd'hui, on va parler de lucrativité limitée. C'est mieux. Hybridé, quoi. Limité jusqu'où ? Limité par qui ? Sur quels critères ? Ça, par contre, c'est pas tout à fait défini. On verra bien. On ouvre la porte à la question de comment est-ce que de l'argent public, et en particulier des subventions publiques, pourraient être données à des entreprises à but lucratif. Ça ouvre cette porte-là, en fait, tout simplement. Bon, j'ai dit qu'il fallait pas que je parle longtemps, donc je vais pas parler beaucoup plus longtemps. Je vais arrêter. Sur tous ces points-là, on a un intérêt ensemble, c'est de constamment repérer les idéologies à l'œuvre et les idéologies dont nous sommes nous-mêmes acteurs. Donc nous transmettons et nous poursuivons sans le vouloir vraiment. Donc là, j'essayais juste de prendre quelques exemples en prenant sous l'angle du but non lucratif. Mais on verra pendant ces deux jours, à d'autres moments et sur d'autres exemples, et notamment dans les travaux des ateliers, qu'il faut qu'on soit vigilant de cette pente-là, qui peut nous entraîner à scier la branche sur laquelle nous sommes assis, parfois. Mayol, tu prends la suite ?
Le mot de passe.
C'était la métaphore pour prendre la suite.
Ouais. Bah, du coup, je vais essayer de prendre la suite là, des points de définition, de questionnement qu'a ouvert Xavier. Je vais essayer de faire le pont entre justement la question de la non-lucrativité et de la propriété collective sur laquelle vous avez beaucoup discuté. Et pour ça, je vais essayer de le faire à l'échelle, enfin à l'endroit des lieux plutôt culturels, lieux intermédiaires et indépendants, et j'allais dire comment ces espaces qui relèvent beaucoup des mêmes histoires que vous connaissez tous, de cette non-lucrativité, de ce format associatif, de la subvention ou autre, est arrivé à la question justement de la propriété collective à travers une coopérative. Donc, merci le passage de flambeau, hein, qui est à, j'allais dire, lucrativité limitée.
J'aime bien faire des petits cadeaux à ma gueule comme ça, c'est sympa.
Non, mais comment du coup ces lieux-là en sont arrivés à la construction de cette coopérative et à cet espace de réflexion autour de la propriété. Du coup, la main, en tout cas, les, voilà, comme je disais, l'histoire de ces lieux qu'on appelle aujourd'hui lieux intermédiaires et indépendants, qui sont issus de tout un tas d'appellations et de travaux, notamment le rapport de Fabrice Lextret au début des années 2000, Nouveau territoire de l'art. Voilà, ça essaye de venir, catégoriser et qualifier ces espaces qui réunissent des praticiens artistiques, culturels, qui mettent à disposition des locaux pour permettre justement la création, ou du moins pour permettre à ces personnes de venir travailler, créer ou autre. C'est aussi des lieux où il y a beaucoup de services mutualisés, que ce soit de trésorerie entre lieux, que ce soit des services mutualisés entre personnes, de gestion de paye, de matériel, enfin voilà, il y a tout un tas de choses de cet ordre de là. Et c'est aussi du coup espace de travail, de création et de diffusion artistique et culturelle. Vous les connaissez, ou du moins ils ressemblent beaucoup aussi à ce que vous pouvez faire vivre au quotidien sous d'autres mots, d'autres noms, et peut-être avec un enjeu peut-être un peu moins fort qui caractérise ces lieux, qui est la logique des lieux qui permettent la professionnalisation des artistes et qui créent des parcours entre les lieux et entre leurs coopérations autour du métier d'artiste. C'est peut-être là une des nuances. Et c'est des lieux qui s'adressent forcément aux artistes, aux habitants du territoire, qui sont souvent... occupent souvent des espaces de friches industrielles assez grandes, plutôt en milieu urbain, mais pas que, et régulièrement dans des quartiers défavorisés. Bon, voilà, ça c'est un petit peu ce qui est le point de ces lieux-là. Et donc, il y a plusieurs histoires qui amènent à la création de La Main. J'en raconterai deux rapidement. Qui est d'abord une étude justement qui a été faite à partir de 2015, qui a été publiée en 2017 dans le cadre de la mission d'observation de Opal, et donc, du coup qui est une association qui est notamment le pilote du DLA pour les acteurs artistiques et culturels. Et qui ont mené du coup une étude d'observation entre 4 lieux du territoire de Plaine Commune. Donc Plaine Commune, c'est l'agglomération autour de Saint-Denis, donc c'est au nord de Paris, c'est un des établissements publics du 93, qui ont mené justement une étude d'observation entre 4 lieux qui étaient main d'œuvre à Saint-Ouen, la Villa Médicis à Aubervilliers, les Poussières à Aubervilliers et le 6B à Saint-Denis. Donc 4 lieux qui en tout cas se rapprochaient, en tout cas eux s'autodéterminaient appartenant aux lieux intermédiaires et indépendants et à la charte qui a été établie dans ce cadre-là. Donc il y a cette étude, et cette étude elle montre justement que c'est cet espace de coopération, de mutualisation qui amène à la professionnalisation des artistes, à la création de filières et qui ont un certain nombre de retombées sociales, économiques sur un territoire. Donc c'est une étude qui participe sur un exemple précis à montrer l'importance qu'ils ont et ce qu'ils amènent à créer à la fois pour une filière sur un territoire et leur importance. Par exemple, on voit que ces lieux représentent 20 métiers différents, que 66% des résidents ont des liens avec les habitants. Ça représente 500 bénévoles, 216 résidents. Quand je dis résidents, ce n'est pas forcément que des personnes, ça peut être des structures aussi, donc il y a encore plus de monde derrière. Voilà. Et donc du coup, on montre que ces lieux, notamment cette étude, que ils ont un double rôle d'activateur des synergies entre les résidents, mais aussi un catalyseur des coopérations en gérant toutes ces questions de la fonction de support. Bon, c'était peut-être un peu long, mais c'est peut-être pour replacer un petit peu le fil conducteur de La Main, le contexte. Et donc il y a cette étude-là qui se fait rencontrer ces 4 lieux. Et la méthode qui est utilisée pour mener cette étude, c'est de notamment faire des entretiens qualitatifs avec les équipes de dirigeants des lieux. Et donc ça les amène à se croiser, à discuter. Et dans ces discussions, dans cet espace qui est ouvert, assez rapidement, ils se rendent compte qu'ils ont tous un point commun, c'est tous avoir un problème avec leur propriétaire. Main d'œuvre, la tension commence à apparaître, je vous raconterai la suite après. Le 6B fait partie d'une zone d'aménagement plus complète, ils sont un peu menacés de est-ce que le lieu va être gardé. La Villa Médicis sont frappés d'alignement par le tram et les Poussières font partie d'une... une confédération, mais du moins une communauté religieuse assez intégriste qui a envie de récupérer son bâtiment et de ne pas spécialement leur permettre de continuer leur activité. Donc il y a cette première espace qui se dit, on se rend compte qu'entre nous, on a besoin d'exister à plusieurs sur un territoire et de travailler ensemble, mais on a tous un problème, c'est un problème avec notre propriétaire. Donc on a besoin d'un espace de discussion, un espace pour prolonger ces échanges-là. Et donc là, c'est un peu le début de La Main. Et assez vite, il y a un deuxième événement qui est l'expulsion de main-d'œuvre, qui du coup, après 20 ans d'existence dans Saint-Ouen, est mis à la porte par la mairie, qui était propriétaire du bâtiment, dans une zone de flottement entre leur bail actuel et une renégociation pour un autre bail. Donc voilà, en octobre 2019, l'équipe se pointe, le lieu est fermé, les CRS avaient tout barricadé. Et donc, ça a quand même un peu un électrochoc dans tout un réseau de lieux, au niveau de tout un tas de réseaux qui sont connectés avec main-d'œuvre au niveau national, mais aussi au niveau international, européen. Voilà, il y a un peu un truc de dire comment un lieu qui a 20 ans d'existence peut disparaître du jour au lendemain sur une simple volonté politique et justement dans un rapport de force qui ne tourne pas à son avantage, c'est-à-dire une municipalité qui avait fait un objectif de son mandat d'expulser le lieu pour en faire un conservatoire. Enfin bref, il y a à la fois cet espace de discussion qui se crée à travers l'étude et l'expulsion de main-d'œuvre qui amène à se questionner autour de la propriété de ces lieux-là et finalement qui est propriétaire et comment on assure une pérennité aussi du bâtiment et de l'espace qui finalement est assez prépondérante, voire essentielle dans l'activité des lieux. Voilà, donc ça c'est le départ de la main. Donc là, à ce moment, une coopérative est créée pour avoir des discussions autour de cette forme juridique, avec plaisir. Donc la coopérative, elle est créée en 2018. Et très vite, au-delà de la coopérative et au-delà de la forme qui est donnée, le sujet foncier de pérennisation des lieux et de propriété collective, il émerge dans tout un tas de réseaux et beaucoup de réseaux viennent participer à la réflexion. Je dirais que c'est plus un espace de réflexion qui s'est ouvert que vraiment encore aujourd'hui un outil, qu'il soit financier ou autre. Et donc ces réseaux, c'est par exemple Art Factories autre part, c'est la Frappe pour les artistes plasticiens, c'est l'UFISC qui justement s'est créé autour de la question de la non-lucrativité en opposition avec l'instruction fiscale de 99 pour reconnaître la non-lucrativité et l'attention particulière que devaient demander les associations culturelles et artistiques. C'est par exemple les musiques actuelles, donc c'est le RIF, c'est Opal, les arts de la rue avec la FERU, Actif au niveau de l'Île-de-France. Et c'est du coup aussi assez globalement la coordination nationale des lieux intermédiaires et indépendants qui rassemblait un petit peu tout ça. Donc il y a cet espace qui se crée. On s'est dit qu'on ne voulait pas trop rentrer dans le technique, donc je ne vais pas vous expliquer finalement ce que c'est la main et ce qu'on fait aujourd'hui. Je dirais simplement que voilà, c'est l'émergence de cette réflexion et la création de la coopérative, ça répondait à des questions, c'est-à-dire pourquoi on achète, pourquoi acheter. Et je dirais que la main, du coup, il y a eu cette motivation donc, de l'expulsion, mais c'était aussi de se rendre compte que il y avait un peu un contexte de promoteurs et de capitalisme prédateur autour de ces espaces-là. C'est-à-dire que Paris est une agglomération, c'était quand même le point de départ et le 93, avec tout un tas d'espaces vacants qui commençaient à être repris par des logiques, par des promoteurs. Il y avait le réinventons le Grand Paris. Voilà. Et donc, du coup, il y a eu de plus en plus d'espaces de prédation sur ces espaces libres, vacants et sur aussi les lieux existants. Dans le même temps, il y avait aussi dans la même dynamique plutôt des logiques d'occupation temporaire, transitoire, qui était la réponse apportée à ces espaces vacants et comme ce nouveau modèle de créer la ville, de faire la ville. Et ça, on l'a subi dans le sens, il y a l'occupation transitoire, temporaire. On est assez vite rentré en opposition ou du moins en désaccord parce que elle fragilise beaucoup les équipes, elle précarise beaucoup les lieux, elle épuise. Quand on doit déplacer plusieurs smirmorgues d'un lieu à l'autre tous les 2 ans, au bout d'un moment, on arrête. Et quand on arrête, c'est un collectif qui s'arrête. Et du coup, c'est tout un tas d'autres choses qui s'arrêtent. C'était aussi revendiquer que le temps de la coopération, comme l'avait montré l'étude, mais demandait du temps. Et que justement, ce n'était pas possible de créer un lien avec un territoire sur des temps aussi courts. Voilà. En plus, dans le même temps, tous ces promoteurs venaient draguer gentiment ces lieux culturels pour inclure dans leurs aménagements, promoteurs ou villes, la présence de ces lieux-là pour justement apporter une couleur sociale, culturelle qui allait répondre à tous les problèmes. Donc il y avait presque une sorte de justification par la présence d'acteurs culturels ou la présence de ces lieux-là dans les territoires de la logique de base assez capitaliste ou autre. Donc ça, c'était un peu problématique. Et à un moment donné, il y a eu aussi une histoire d'amour qui a débuté. il y a quand même une rencontre avec Terre de Liens qui, je ne dirais pas qu'elle n'existait pas avant, mais là, elle s'est matérialisée. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre entre Juliette Bonpoint, qui était à ce moment-là directrice de main-d'œuvre, donc qui avait quand même permis avec son équipe de sauver le lieu, qui était à l'initiative de la main qui l'a créée, et une rencontre avec Vincent Janot qui venait refaire un objet d'étude sur main-d'œuvre. Et donc, du coup, là, il y avait un peu le je te donne les infos sur main-d'œuvre, mais toi, tu me racontes Terre de Liens. Et donc, là, il y a eu un peu le truc de bah, en fait, nous, on va faire un Terre de Liens culture et on a besoin d'acheter collectivement les lieux, justement, pour les sortir des logiques de marché, de ces logiques de spéculation. Et aujourd'hui, la propriété, c'est l'éternité. C'était un peu ça. C'était les lieux dont pouvait être le héros pour l'éternité.
Modestement, bien sûr.
Modestement, oui. On fait toujours les choses un peu modestement, parce que pareil, on a dit au début, en 10 ans sans lieu, donc ça aussi, c'était très modeste dans l'approche. Mais j'allais dire que si on connaît un peu les personnes qui étaient à la création, c'est pas forcément... ça nous surprend pas. Donc voilà, la main se lance autour de ça, autour de ces questions, pourquoi on achète, et donc c'est un peu ces raisons qui ont fait dire qu'aujourd'hui, la propriété, c'est peut-être un des... C'est un des outils qui nous est à disposition si on le rend collectif par des montages juridiques qu'on ne développera pas ici. Il faudrait s'entendre sur le collectif. Du moins, on pourrait réussir à, par la propriété, rapprocher justement l'usage, donc les collectifs qui faisaient vivre les lieux, qui les rénovaient, qui les entretenaient, qui participaient, on l'a entendu dans les groupes, à leur valorisation et qui en perdaient à un moment donné, en fait, tout, qui avait créé, donc qui participait en plus à des logiques de gentrification ou autres qui pouvaient les dépasser. La propriété pouvait être un espace de réflexion et une perspective qui permettait de lutter contre ça. Aujourd'hui, on n'a pas encore de choses arrêtées dans le sens où on n'est pas encore propriétaire, donc finalement, vous voyez, entre l'idée et la suite, on n'y est pas encore, mais voilà, ça, c'est un peu l'histoire de la main, comment elle s'est créée et comment, en tout cas, au niveau des acteurs culturels et artistiques, on en est arrivé à de dire que la construction d'un espace de réflexion autour d'une perspective de foncière et d'acquisition collective où finalement les usagers des lieux, les artistes, les habitants, les équipes soient autant propriétaires ou on assure autant la maîtrise d'usage que la maîtrise foncière ou immobilière, c'était un peu un idéal qu'on avait envie de poursuivre. Et donc, j'avais plus envie aujourd'hui de vous partager quels étaient nos enjeux et questionnements à l'endroit où on était, plus que notre modèle, qui n'existe pas encore. Moi, j'ai l'impression que c'est justement entre ce qu'a raconté Xavier et ce qu'on a discuté, c'est comment on le fait. C'est-à-dire comment on arrive à créer une propriété partagée qui soit non lucrative. Bon courage. Aujourd'hui, on se voit bien que c'est difficile face au modèle financier et économique qu'on nous propose. Et quand on est surtout dans des zones qui sont denses, où les bâtiments coûtent cher, voilà, là on se rend compte qu'il y a aujourd'hui un vrai manque de solutions et on est un peu nous bloqués face à ça. Rapidement, la solution sur laquelle on s'est tourné, qui était celle de Terre de Liens, c'est l'épargne citoyenne, c'est la collecte citoyenne. Ok, super, très bien, ça peut être une solution. Bon, acheter une ferme, ça coûtera, j'allais dire ça dépend, mais ça coûte en moyenne quand même moins cher qu'acheter un lieu de plusieurs milliers de mètres carrés à Saint-Ouen, par exemple. Donc ça, c'est une première limite. Puis nous, il y a quelque chose, c'est un peu un questionnement que je vous partage et qu'on a. C'est finalement, on est sur des usagers qui sont très précaires, c'est-à-dire des collectifs d'artistes qui ont déjà beaucoup de mal à exister. On est sur des quartiers qui sont aussi défavorisés, avec des personnes qui ont, qui ont pareil aussi des conditions financières qui ne sont pas forcément évidentes. Et donc, c'est à ces personnes-là qui sont engagées qu'on va demander de racheter eux-mêmes les lieux qui font vivre. Bon, nous, il y a un petit truc qui frotte et sur lequel on n'est pas trop d'accord. Et on se dit finalement, la levée de fonds citoyenne, certes, mais pas que. L'argent, il n'est pas là. Et l'argent, il est où? Et S'il y a de l'argent et qu'il n'y a pas d'argent, comment on va le prendre? Et aussi dans ces logiques-là de maîtrise foncière. Les questionnements, c'est aussi comment la pérennité, on la construit et comment on arrête ces occupations temporaires, transitoires, où l'argent public, il est investi dans des lieux, soit qui vont être détruits, soit qui vont servir à un complètement autre usage. Si on avait mis dès le début tout cet argent à la pérennisation de lieux, on aurait peut-être moins de problèmes aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi des questions qu'on a aujourd'hui. Donc là-dessus, c'est comment on construit un rapport de force avec les promoteurs et les acteurs de l'aménagement de manière générale, que ce soit autant les collectivités, que ce soit les aménageurs, que ce soit aussi les architectes ou tout ça. Enfin, il y a vraiment là une réflexion à avoir sur la manière dont on fait les choses. Et nous, c'est un petit peu ce qui nous anime aujourd'hui. Et pour moi, justement, un des enjeux, et c'est aussi pour ça qu'on était content de venir partager ça, c'est comment on imagine des ponts entre différents secteurs, différents endroits. J'en ai listé quelques-uns, mais voilà, l'exemple de Terre de Liens, il nous a tous un peu permis de, j'allais dire, nous lancer, ou nous a tous donné un peu des étoiles dans les yeux. Il n'y a pas que nous, hein, y a d'autres gens, Village Vivant, Ibeta Humanisme, j'ai l'impression qu'ils sont dans cette logique-là. C'est super. Bon, nous, aujourd'hui, on n'arrive pas trop à dialoguer avec Terre de Liens. Je ne sais pas si d'autres arrivent mieux à le faire. En tout cas, il y a ce croisement, quoi. Comment, autour de ces acteurs qui réfléchissent à une autre propriété ou à une autre pérennisation, que ce soit de terres agricoles ou de lieux, à un moment donné, on arrive peut-être à dialoguer un peu plus fort pour aller plus loin. Moi, j'ai l'impression d'observer, en tout cas, une limite dans ces questions-là au cercle du projet. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais en tout cas, aujourd'hui, on a du mal à dépasser la conversation et la mutualisation au-delà de moi, mon projet. Je vais venir beaucoup chercher d'informations et d'ingénierie sur comment j'arrive justement à acquérir ou obtenir un bail emphytéotique avec une ville sur du très long terme, mais comment je le fais pour les autres. Voilà. Ça, je trouve qu'on a encore du mal à le faire et on gagnerait à le faire tout de suite entre plusieurs... urbain, rural, périurbain, tout ce qu'on veut, et différents secteurs aussi d'activité, si on pourrait les appeler comme ça. Donc, nous, c'est un peu les questionnements, les enjeux qu'on a. Et puis, tant pis, il y a des choses que je voulais dire, mais c'est pas grave. Et je pense qu'on a aussi besoin dans ces questions-là, et ça rejoint aussi le week-end, peut-être besoin de porter une attention plus générale à ce qui se passe justement un petit peu sur les territoires, aux changements sociaux qui sont en train de se construire, justement pour passer cette étape supplémentaire. C'est-à-dire que si on devait mieux communiquer ensemble, aboutir à des propositions ou à des outils plus mutualisés, je pense qu'il faut le faire dans l'attention de ce qui se passe aussi à d'autres endroits que simplement nos lieux d'un point de vue technique ou sur la question du non lucratif. Et finalement, ça me permet quand même de rebondir sur ce que j'avais oublié de dire. Nous, notre perspective de réflexion ou ce qu'on essaie de travailler, c'est finalement comment on allie un droit à la ville ou du moins un droit à l'espace ou comment on peut le dire avec la question des droits culturels. Et ça recoupe tout un tas de sujets. Je me lancerai pas là maintenant, parce qu'en plus, j'en serais bien un peu incapable d'expliquer toute la profondeur des deux sujets, que ce soit le droit à la ville, le droit culturel. Mais en tout cas, nous paraît comme une perspective intéressante à travailler sur ces enjeux-là, qui recoupent tout un tas d'autres sujets. Voilà ce que j'avais envie de partager, quelle est un peu notre histoire à la main et au niveau des lieux intermédiaires, comment on travaille cette question, d'où est-ce qu'elle vient. J'espère que ça ouvre des perspectives de réflexion sur 3 jours. Voilà.
Merci Mayol.
Les tiers-lieuses.
Je ne sais pas si ça ouvre des perspectives sur 3 jours ou sur 3 ans. Mais en tout cas, ça introduit probablement l'atelier que nous allons réaliser demain.
Et ouais, on fait la transition.
Hey, hey.
Bah oui, du coup, je m'étais quand même noté ça de faire la suite sur les ateliers. Du coup, avec Xavier, on propose, et ça fera le pont avec la présentation des autres ateliers derrière. Il y a 2 ateliers qu'on avait envie de poursuivre sur cette question-là, que ce soit la plénière ou ces autres sujets autour de propriété collective. Le premier atelier sera plutôt sur continuer cette interconnaissance et comment, à partir de cas pratiques, enfin de cas pratiques d'études de cas, on discute des situations de chacun, comment on identifie peut-être des outils qui ont déjà été mobilisés, des choses inspirantes, des choses qui ont moins bien marché, et qu'on nourrit une discussion là-dessus. Et le deuxième atelier, samedi, il aura plutôt l'objectif de se dire qu'est-ce qu'on fait ensuite et comment on va plus loin au-delà de l'interconnaissance et qu'est-ce qu'on pose collectivement à la suite de ces rencontres. Il y a tout un tas de rendez-vous qui commencent déjà à s'identifier. Mais voilà, comment on continue le dialogue.
C'est donc un atelier en 2 temps.
Ah non, on a de la chance. On a le droit d'avoir 2 ateliers, même plus une plénière.
Ah ouais, t'as pas ça de la chance. Ok, on a de la chance. Donc c'est bon, vous avez compris le principe. Il y a à l'intérieur de la grande halle l'intitulé chaque atelier, de manière à ce que chacun puisse s'inscrire. Et puis vous avez la répartition géographique dans le lieu qui s'appelle la Californie, qui est aussi indiqué sur chacune des fiches. Donc ça doit être assez simple de s'y repérer, sachant que ces ateliers ils commencent à 10h demain, parce qu'on est hyper libéraux sur les horaires. Le deuxième atelier, c'est est-ce qu'on peut faire un tiers-lieu sans faire éducation populaire? C'est une vraie question, ça.
et je ne vais pas y répondre. Non, la proposition, c'est qu'en fait, il y a une vingtaine d'ateliers. Et donc, si on prend 3 minutes sur atelier, ça risque d'être un peu long. Mais ce qu'on a fait entre-temps, c'est qu'on est allé noter sur chacune des fiches des ateliers une personne qui est référente sur l'animation. Et ce qu'on vous propose, c'est d'identifier les personnes, enfin là, de se faire un tour, qu'on se fasse coucou, et que vous puissiez aller discuter avec les personnes référentes sur les ateliers qui vous intéressent, si vous voulez plus de détails. Donc, une de ces personnes, c'est Xavier. Une autre, c'est Camille. Voilà, Camille. Ouais. C'est que... Ouais, j'ai pas la liste avec moi, mais on va les prendre. Normalement, les prénoms sont dans l'ordre. Donc... Ouais, mais tout le monde n'est pas là. Mais je peux les faire de tête. Donc Xavier, donc c'est sur le premier atelier qui a été présenté. Ensuite, si vous avez le programme, est-ce qu'on peut être un tiers-lieu sans faire d'éducation populaire ? C'est Florence qui est ici. Être humain au sein des collectifs, quel écho aujourd'hui à ce chapitre du recueil tiers-lieu à but non lucratif ? Il me semble que c'est Myriam. Liberté associative vis-à-vis des financeurs et des partenaires. C'est Benoît qui est à la librairie. Tiers-lieu géré et animé par des collectifs de jeunes, quelle spécificité ? C'est moi-même. C'est Jade, pardon. Accès aux droits et solidarité pratique dans les lieux collectifs. Voilà, c'est Raphaël qui est juste derrière vous. Des tiers-lieux initiés par des collectivités territoriales. Alors, c'est Camille également. Et Marion. Ensuite, sur les ateliers de l'après-midi, le premier sur tiers-lieux nourriciers, ça sera le parc. Donc, voilà, Camille également.
Toi aussi, t'as de la chance, Camille. Ouais.
C'est la locale de l'étape. Un regard politique sur les tiers-lieux ruraux, ça sera Blanche qui n'est pas encore arrivée. Ensuite, sur les cosmologies financières, la mini-plénière, donc la personne qui animera n'est pas encore là. Si, c'est une plénière, voilà.
C'est une plénière, il n'y a pas le choix, donc c'est pas grave, hein. C'est obligatoire, voilà.
Ensuite, c'est qu'est-ce qu'on libéral. A Les chantiers collectifs, peut-être que c'est Yves qui peut donner plus d'informations, voilà, qu'on voit derrière. Et Gaël également, voilà, qui est juste à côté. Et ensuite, sur les ateliers du samedi, donc la notion de temps, le prendre et ou le perdre, c'est Jeanne qui est partie. Le labo fiction de la... Alors, c'est Fabrice.
C'est l'équipe de la plénière.
Voilà, Fabrice qui est juste ici, si je ne me trompe pas. Ensuite, expérimenter la communication non violente. Il me semble que c'est Myriam. Faut-il aller vers la propriété pour pérenniser les lieux ? Mayol et Xavier. Rencontre des mondes entre nouveaux arrivants et habitants historiques en rural. C'est moi, Jade. Un tiers-lieu porté par une association, est-ce bien crédible et sérieux ? Il me semble que c'est Jean-Marie, tout à fait. Jean-Marie, qui a un t-shirt vert.
Il faut que tu gardes ton t-shirt demain, Jean-Marie, c'est ça le problème.
Et puis, pour finir, un tiers-lieu porté par une association... Ah non, mais en fait, c'est fini. Ah ouais.
Il y a un atelier qui n'est pas sur le programme, qui s'appelle... Tiers-lieu et projet financement européen, exemple d'opportunité. Ce sera Stéphanie. Et c'est vendredi à 14h30.
Et bien normalement, là, vous en avez un peu marre d'être assis puis de nous écouter. On peut peut-être passer
c'est
à la
bière.
Le bar est ouvert et le repas arrive.
Merci.